Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le ravi, Radio Grenouille, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et surtout pour cette nouvelle année 2013, une année qu'on ouvre sous le signe de l'écologie, avec Sébastien Barle comme invité, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Barle, porte-parole d'Europe Écologie à la région, dans la région PACA, donc qui sera question de politique locale mais aussi de nationale. Une émission que vous pouvez écouter sur les 3-8 avec la rédaction de Radio Grenouille et du ravi, le ravi dans tous les kiosques. Avec moi Michel Guéraud, et une tradition dans cette émission, le portrait de l'invité.
Quel est le bonhomme mal rasé qui pose toujours aux côtés d'Eva, de Dany, de Nicolas, de José et de Cécile lorsqu'ils viennent faire un tour à Marseille? C'est Sébastien, bien entendu, que l'auditeur non initié nous pardonne, mais à Europe Écologie Les Verts, c'est comme ça, on s'interpelle par le prénom. Pour que tout le monde puisse suivre, je traduis quand même. Pas de photo d'un écologiste en virée marseillaise, qu'il s'appelle Eva Joly, Daniel Combendide, Nicolas Hulot, José Bové ou Cécile Duflo, sans Sébastien Barle dans le cadre. Car Sébastien, depuis ton arrivée à Marseille en 2008, tu as su te rendre incontournable. Que l'auditeur, offusqué par une telle promiscuité, nous pardonne une fois de plus, c'est que tous les journaux phocéens ayant un jour signé un article politique ont le 06 de Sébastien. Et Sébastien a le tutoiement facile. Et puis, comment vous voyez quelqu'un coiffé comme Bozo le clown? Barle, pardonnez-nous ce mauvais trait d'humour. Soyons pros, allez. Sébastien Barle, vous êtes né près du Vieux-Port. Mais pas celui que Gene Caselli se vante d'avoir repavé à temps pour la capitale de la culture. Vous êtes né à Nice, personne n'est parfait. Pourtant, au lieu d'adhérer à une amicale identitaire pour la défense du médecinisme, vous donnez dans l'activisme droit de l'homiste. Après un passage par le syndicalisme libertaire, vous voilà à 21 ans animateur d'Amnesty International, puis à 23 ans réquisitionnant des logements, oui, avec droit devant. Pour vous calmer, vos parents vous envoient faire des études de droit à Aix-en-Provence, mais là aussi, vous faites le malin en militant à ras-le-front. À Paris, où vous étudiez puis enseignez le droit public, cela ne s'arrange pas. Vous rejoignez les Verts à 26 ans, en 99. Vous organisez aussitôt à Paname de grandes messes altermondialistes. Retour au Sud et à Marseille en 2004. Vous voilà à 34 ans, secrétaire général des Verts au Conseil régional, aux côtés de Benamias, qui ne murmure pas encore à l'oreille des chevaux de François Bayrou. Votre premier mandat, c'est en 2008, comme conseiller d'opposition à la mairie de Marseille. Vous y siégez toujours. Entre-temps, vous avez été un peu le Patrick Menucci écolo de toutes les campagnes, en dirigeant celle de Laurence Wisniewski au régional et puis celle de Michel Rivasi aux européennes. Vous devenez attaché parlementaire, de Rivasi à Bruxelles et vous êtes désormais porte-parole des élus écolos marseillais et porte-parole régional. Mais vous bataillez aussi sous votre propre nom au cantonal, au législatif, bref. Vous seriez à l'UMP, on parlerait d'un cadre, au PS d'un éléphanto, au PC d'un apparatchik, mais chez les Verts, tu restes Sébastien, la preuve, tu viens de cofonder le collectif des Gabians pour faire de l'agitation citoyenne autour d'un manifeste action. Barle, vous êtes incorrigible.
Sébastien Barle, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie?
Non, mais je pense que c'est vrai que j'ai un côté activiste, alors j'essaie de me soigner, mais... Mais c'est vrai que ces vieux démons me gagnent en permanence, quoi. Donc j'essaye de prioriser maintenant un peu les actions.
Alors justement, en parlant d'action, il ne vous a pas échappé qu'on a une actualité plutôt guerrière ces temps-ci, avec une intervention française au Mali, alors pour le terrorisme, ou selon les mots de François Hollande, pour détruire littéralement les terroristes. Les écologistes Europe Écologie Les Verts sont au sein de ce gouvernement. Aucune voix s'est élevée, à part Noël Mamer. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je crois qu'effectivement, Noël Mamère a bien exprimé le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, notamment à l'Assemblée nationale, sur cette intervention militaire. Je crois également qu'il y a d'autres voix qui sont exprimées, notamment ce week-end, de la part d'Europe Écologie, Les Verts et de notre ministre délégué à la coopération, pour bien exprimer le fait que s'il fallait intervenir, il faut maintenant développer un programme de co-développement avec l'Afrique et que l'Union européenne enfin réinvestisse le continent africain sur des mesures donc de co-développement, donc renouer avec ce qui s'était fait avec les accords de Lomé dans les années 70. Donc voilà, je crois que c'est très important de s'affranchir des règles de l'OMC et de pouvoir développer des vraies politiques interrégionales, Afrique-Europe, dans ces pays.
Au-delà des vœux de coopération, l'aventure guerrière, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt... parce que là, on est quand même au cœur de la France-Afrique, une armée ex-coloniale qui intervient...
Effectivement, le problème, il est là. Nous allons être très vigilants. On est dans un pays voisin également du Niger. On connaît les ressources dont dispose le Niger, et notamment dans un pays qui est nucléarisé comme la France, ce que ça correspond. Donc effectivement, il y a cette vigilance en matière de lutte qui serait, qui pourrait être considérée comme néocoloniale. Maintenant, je crois qu'il fallait effectivement, il fallait intervenir en tout cas pour dans ce pays qui a été considéré un temps comme une espèce de démocratie à l'occidentale. C'était un rare pays africain où il y avait un semblant de démocratie. Et voilà, je pense qu'il fallait intervenir militairement, mais voilà, il faut qu'il y ait l'autre volet, c'est-à-dire le volet co-développement qui soit bien présent.
Alors les dirigeants, le Parti Vert vient de voter de façon très, très, très unanime, pour une fois, c'est rare, un soutien à cette intervention. Est-ce que c'est un signe justement de la maturité politique de ce mouvement? Il y a une tradition antimilitariste, anticoloniale très forte dans ce mouvement. Est-ce qu'un jour on pourrait voir un ministre écolo de la Défense?
Il y a eu un ministre en Allemagne écolo, Degrünen, qui était aux affaires étrangères, donc qui n'a pas été à la Défense, mais qui était aux affaires étrangères. Donc effectivement, ça peut s'envisager. Je pense qu'on pourrait imaginer un jour Jean-Vincent Blassé, ministre de la Défense. Lui qui rêve d'avoir des fonctions régaliennes.
Je crois que c'est l'intérieur qui vise.
Oui, il vise plutôt l'intérieur.
On en plaisante, mais est-ce que c'est assumé ça maintenant? C'est-à-dire que...
Il reste fondamentalement
à faire entendre encore sur ces sujets-là ou non, parce que vous
mais
êtes
aussi,
un,
je pense dans le combat contre la France-Afrique, je pense que les écolos ont été moteurs parmi les politiques. Je pense que la présence de Pascal Canfin, tout le travail qu'il fait, qui est un travail presque clandestin, qui est pas, parce que c'est le domaine réservé de la France, c'est pas ce qui apparaît dans les grands sommets internationaux, mais il y a un travail de fond qui est fait pour rompre avec la France-Afrique, pour réellement rééquilibrer les rapports, remettre au cœur de l'agenda politique, les rapports Nord-Sud et notamment au niveau européen.
Je rappelle que Canfin a été...
Mais on reste pacifiste, hein, ça c'est une évidence, c'est une valeur fondamentale que l'on porte.
Canfin a été dans la liste, je crois, du Parisien, s'il me semble, des ministres inconnus qu'on ne connaît pas. Hein. Donc on vient de le découvrir, vous l'avez cité deux fois. Barlan, on vient de passer différentes étapes. Il y a 8 mois, il y a eu les présidentielles. Je rappelle le score d'Europe Écologie, c'est 2,3%, c'était pas fameux. Vous avez depuis quelque temps un groupe, depuis les dernières législatives, un groupe à l'Assemblée nationale, avec un score que certains ont qualifié d'artificiel, puisqu'il est dû essentiellement aux accords avec les socialistes. Aujourd'hui, Europe Écologie, Les Verts, est-ce que c'est un auxiliaire des socialistes? Est-ce que c'est un groupe qui a une vraie autonomie politique, une vision différente?
Mais je crois qu'aujourd'hui, dans la majorité, Europe Écologie, Les Verts, c'est un aiguillon. Enfin, ça se veut être un aiguillon pour accélérer le changement. Accélérer le changement et accélérer la transition écologique. Donc on voit sur les politiques énergétiques, par exemple, dans le débat sur la transition énergétique, on voit qu'il y a certaines mesures qui commencent à avancer. Je crois qu'on l'a vu également avec le vote de la loi sur la tarification progressive des biens communs, et notamment de l'électricité. Il y a d'autres mesures. Donc sur le logement également, notre ministre met en place une politique très innovante en matière de maîtrise du foncier, par exemple, et de développement de l'habitat alternatif. Donc voilà, toutes ces mesures font qu'on essaye de passer ce que l'on peut passer. Après, effectivement, on n'est pas majoritaire, on est une minorité dans la majorité, et donc c'est un combat de tous les jours. C'est extrêmement compliqué. On voit par ailleurs qu'on n'a pas encore réussi la conversion du Parti Socialiste vers l'écologie. Et le conflit le plus emblématique, c'est Notre-Dame-des-Landes. On voit que Notre-Dame-des-Landes montre bien deux visions de la société. Une vision du Premier ministre qui est celle, il le dit comme ça d'ailleurs, c'est Jean-Marc Ayrault lui-même qui présente Notre-Dame-des-Landes comme un combat, comme deux modèles de société qui s'opposent. Un modèle productiviste fondé sur la mythologie de la croissance éternelle, du développement par les grandes infrastructures, les grands projets, et puis un projet beaucoup plus de développement beaucoup plus auto-centré, donc fondé sur le maintien de l'agriculture paysanne, sur un modèle de développement plus sobre et moins consumériste.
Et le soutien plutôt discret de Cécile Duflot sur la lutte contre cet aéroport?
Enfin, Cécile Duflot, elle a très bien exprimé. Elle a dit clairement que si elle pouvait, elle serait parmi les manifestants. Et par ailleurs, je pense que c'est pas... On était des centaines et des milliers même d'écologistes le 17 novembre. On y était présents nous-mêmes à Nantes ce jour-là. Donc je crois que les écologistes sont... On sait être un pied dans la majorité et par ailleurs un pied dans les mouvements sociaux. Ça, c'est important.
C'est en général un équilibre assez précaire, ça. Un pied d'un côté.
Oui, mais enfin, tout est précaire. La vie est un équilibre très précaire et il faut en avoir conscience.
Michel Guéraud, un mot sur la vie, peut-être?
On a connu un autre parti qui, avant vous, était comme ça partenaire privilégié du Parti Socialiste, c'était le Parti Communiste. Et il a payé assez cher, justement, ce grand écart entre sa participation au gouvernement, les idées qu'il voulait défendre malgré tout, et l'image qu'il a pu donner à l'opinion publique et à ses propres militants. Est-ce que vous ne craignez pas que les écolos, confrontés à l'exercice du pouvoir dans le compromis avec un Parti Socialiste qui, finalement, partage qu'une partie de vos combats, soit de toute façon doivent payer le bilan gouvernemental sans pour autant avoir pu faire entendre son opinion.
Mais je crois, enfin, je pense que c'était une autre époque, les années 80, quand il y a eu une gestion, effectivement, une co-gestion entre PS et Parti communiste, le PC ne mouffetait pas, en fait. Il y avait une espèce de PC qui était bâillonné. Et donc, quand ils ont fait le bilan et qu'on considérait que c'est plus possible, ils sont sortis du gouvernement. Je crois que nous, c'est un peu différent. On se positionne comme aiguillon et on affirme nos différences et nos désaccords, d'ailleurs, sur la place publique. Et on l'a affirmé même dans l'accord qu'on a passé avec le Parti Socialiste pour le contrat de gouvernement. Donc là-dessus, les désaccords, ils sont pointés, on continuera à les affirmer, à les afficher. Mais effectivement, si la feuille de route n'est pas respectée, c'est-à-dire si, par exemple, sur le budget 2014, que je pense que c'est l'examen, enfin la vraie évaluation de notre participation au gouvernement, ce sera le budget 2014. Est-ce qu'effectivement la fiscalité écologique passe dans la loi de finances? Est-ce que le débat sur la transition énergétique débouche sur des mesures concrètes de développement des énergies alternatives, d'un programme réel de lutte contre la précarité énergétique, de sortie progressive du nucléaire? C'est ça, c'est à cette aune-là que l'on va définir notre participation au gouvernement et si elle est utile ou pas utile. Je pense qu'aujourd'hui, il est utile d'être à l'intérieur parce qu'effectivement, il faut pousser ce gouvernement, ce Parti Socialiste, au changement. Et on voit bien que la co-gestion, qui peut être très compliquée, hein, on le voit dans les exécutifs locaux, mais ce sont les écologistes qui amènent des politiques innovantes dans les régions, dans les municipalités. Ce sont les écologistes qui jouent ce rôle d'innovation sociale et de transformation sociale.
Cette deadline du budget 2014 a fait l'unanimité au sein des écologistes. Tout le monde est pour sortir de la maison gauche commune. Si
effectivement, on conditionne la suite de notre participation au gouvernement à la feuille de route de la loi de finances 2014. Mmh.
Michel ?
Alors, un dossier emblématique pour vous, c'est le nucléaire. On a vu Michel Rivasi qui a été déclaré
député du
persona non grata lors de l'inauguration de
D'abord d'ITER. Invité, ensuite effectivement voilà. Non, finalement.
Donc là, ITER, alors là, on a affaire à un gros équipement soutenu par le Parti Socialiste, localement, nationalement. Et donc là, ça fait partie de ce que vous avez acté comme désaccord.
Alors ITER, ce n'était pas réellement dans le programme, mais effectivement, c'est un des désaccords qui est maintenu. Je pense que c'est encore une fois l'illustration, c'est un peu notre Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, c'est un projet qui est un projet prométhéen, qui est fondé sur une mythologie scientiste et productiviste. Et on voit bien que c'est un projet qui est dépassé, et y compris la communauté scientifique. Il y a 3 prix Nobel de physique qui le disent, que c'est un projet qui est scientifiquement, qui n'est pas validé, que c'est un projet qui est daté, qui a une origine politique. C'était le sommet Gorbatchev-Reagan de 85. Donc c'est né d'une volonté politique et aujourd'hui on maintient des milliards d'euros dans un projet qui assèche tous les autres budgets en matière d'efficacité énergétique, de développement des autres sources d'énergie. Donc voilà, c'est dommage, je pense qu'il faudrait reconvertir le budget, faire un moratoire sur ITER parce qu'il en a encore temps. Ça s'arrêtera de son jour, on verra bien que ce projet est complètement obsolète scientifiquement, donc ça s'arrêtera, donc autant dépenser le moins de milliards possible.
Sébastien Barle, finalement, le score d'Eva Joly au présidentiel, 2,3%, est-ce que ce n'est pas le signe que, finalement, la société accepte d'écouter certaines de vos idées, mais que vous êtes vraiment en décalage? Je vois tout à l'heure le nucléaire, vous êtes contre, à l'arrivée, ça sera des licenciements, forcément, si on change les centrales nucléaires. Notre-Dame-des-Landes également, c'est des emplois qui ne seront pas assurés. On ne vous entend pas sur les licenciements de Peugeot, Renault qui viennent d'annoncer 7000 licenciements. Vous n'êtes pas un peu en décalage avec les attentes de la société?
Mais alors, moi je veux bien, si on raisonne en termes d'emploi, j'ai parlé tout à l'heure de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est on répond à la fois à l'urgence sociale, c'est-à-dire on baisse la facture énergétique des ménages, mais on crée également des centaines de milliers d'emplois. Ça a été considéré, c'est un gisement d'emplois, mais considérable. Et c'est de l'emploi non délocalisable. C'est de l'emploi qui n'est pas concentré, comme le nucléaire peut l'être, sur quelques pôles, une soixantaine de pôles en France, mais complètement décentralisé sur toutes les villes, sur toutes les petites communes de France. Donc on est sur... Nous sommes pour créer de nouvelles filières d'emplois et pour la reconversion et la relocalisation de l'économie. Donc Et d'ailleurs, ça fait résonance dans la tête de beaucoup de personnes qui travaillent dans ces secteurs menacés aujourd'hui par la désindustrialisation. On l'a vu avec les Fralib. Les Fralib, quand on les a rencontrés il y a 2 ans, quand ils étaient en lutte donc, contre la menace de délocalisation d'Unilever, on leur a dit, mais il faut aller vers une politique beaucoup plus axée sur le savoir-faire traditionnel, c'est-à-dire le fait de retrouver les infusions avec des produits locaux, les circuits de distribution courts. Les syndicalistes sont aujourd'hui complètement ouverts à ce type de démarche, à ces nouveaux modes de consommation, de liens, de circuits courts entre consommateurs et producteurs. Et c'est la démarche qu'ils entreprennent aujourd'hui, les Fralib, en montant leur coopérative. C'est la même question par rapport au site Lionel Bazel, par exemple, sur les Temps de Berre, site pétrochimique et raffinerie donc de pétrole. On voit bien que l'intersyndicale, quand on l'a rencontrée, elle a très bien compris qu'ils sont sous respiration artificielle par les collectivités et par l'État. Ils sont mis sous respiration artificielle. Et donc, anticiper la reconversion, travailler sur un pôle de recherche lié à la chimie verte sur la zone de l'étang de Berre, c'est ça les métiers d'avenir.
Enfin,
c'est
travailler ça qui sur le pôle de recherche, de leur emploi. Ça ne concerne pas les ouvriers, ça concerne les ingénieurs.
Non,
les
mais
gens,
travailler dès maintenant sur la recherche pour, dans 10 ans, pouvoir effectivement basculer de la pétrochimie à la chimie verte. Pour nous, c'est ça, on crée des filières d'avenir et créatrices d'emplois.
Michel, le schiste, autre dossier. Par contre, il y a une ambiguïté qui n'a pas été complètement enlevée. Il y a toujours une volonté d'un certain nombre d'acteurs au sein de la majorité, au sein du Parti Socialiste, pour essayer de trouver d'autres techniques et repartir à la charge sur cette énergie-là.
Oui, qu'ils cherchent.
Ils cherchent. Vous êtes inquiet là ou pas? Il y a eu une tentative de déposer un projet de loi pour enlever l'ambiguïté.
La fracturation hydraulique, il y a tous les impacts que ça pose en matière environnementale, autre que la question de l'eau. Quoi. C'est horrible l'emprise paysagère que ça peut avoir de l'ensemble des forages. Des gaz de schiste. Donc je crois qu'on n'est pas prêt. On a vu la mobilisation.
Enfin, ça n'empêche pas la recherche. Rocard l'a dit récemment.
Il faut faire de la recherche. Mais de même qu'on n'est pas opposé à. On n'est pas des obscurantistes. On n'est pas opposé à la recherche sur la fusion thermonucléaire. Ce que l'on veut, c'est rééquilibrer les budgets. Et on considère que la recherche sur les énergies fossiles.
On peut envisager que le gaz de schiste finance les énergies alternatives.
Mais je pense que le choix, il n'est pas là-dessus. Enfin, le choix, il est sur le. Soit on développe réellement. Les alternatives énergétiques, soit on reste enfermé dans la logique d'énergie fossile. Et on a pour 20 ans, effectivement, peut-être qu'on a des gisements pour 20 ans, mais à quel prix? La question, c'est ça, et je pense que la population... Enfin, moi, je suis allé à des réunions à Brignoles, par exemple, où il y avait 500 personnes. 500 personnes qui s'opposent à ce type de société, où on massacre un pays pour quoi?
Michel? Est-ce que les gens sont prêts à payer, finalement, le prix d'un mode de développement qui serait radicalement différent? C'est-à-dire... Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le gros mot de décroissant, mais...
Je rappelle qu'on est rentré dans l'ère du low cost. Hein. Les gens ne parlent plus, ne vivent plus que par low cost. Hein. Les faire payer plus cher, difficile.
Mais ce n'est pas toujours payer plus cher. Je pense que c'est un autre modèle de développement qui n'est pas forcément payer plus cher. Je pense que quand on développe les circuits courts en matière d'alimentation, bon, c'est la première des choses, c'est se nourrir, se loger, se nourrir. Donc en matière d'alimentation, toutes les mesures d'écologie populaire qu'on a pu mener dans les quartiers, la question des épiceries solidaires, éviter que les gens fassent 2 heures de transport en commun pour aller au supermarché le plus proche, je pense au quartier nord, au Grand Littoral, où ils prennent parfois 3 bus pour y arriver. Pour faire leurs courses, je pense que ce serait mieux d'avoir des produits locaux avec une tarification sociale, par exemple, mais avec des commerces de proximité. Et pareil, ça crée plus d'emplois, ça permet aux agriculteurs de se maintenir sur le territoire. On est là sur une illustration concrète de la relocalisation de l'économie.
Michel, l'écologie pour vous n'est pas
pas un luxe.
C'est pas un luxe, c'est pas une histoire de bobo de centre-ville. Pourtant, on dit que si on regarde la carte électorale, vos bons scores quand même correspondent à ça, à Paris en particulier ou ailleurs.
On fait des très bons scores dans les quartiers populaires de Paris, dans l'Est parisien.
C'est pas Est-ce les qu'il y a encore des quartiers populaires à Paris?
Non, mais effectivement, on peut considérer que ce sont des quartiers bobos. Après, on fait des scores. On a fait aux européennes, on a impacté sur toutes les scores. On a eu le premier parti des employés, par exemple, c'était Europe Écologie Les Verts. Donc, je crois qu'il y a une petite musique à faire passer, mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, la facilité veut qu'on aille sur le modèle classique de développement, de consommation.
Michel. Donc Sébastien Barbe, vous êtes satisfait de ces premiers pas au gouvernement? Enfin, il n'y a aucun regret
Et c'est pas qu'il n'y a aucun regret, on y est aujourd'hui, donc la question c'est effectivement, il y a des regrets bien sûr. Je crois que le rapport sur la compétitivité, le rapport gallois, ça ne nous satisfait pas. Il y a des mesures, on espère un changement plus radical. Mais je vous dis, on a très bien compris qu'on était minoritaire dans cette majorité et qu'il fallait avancer sur la question du logement. Si effectivement Cécile Duflot arrive à réquisitionner des logements, enfin à faire appliquer les lois de 45 et de 98 sur la réquisition des logements vacants, si effectivement on développe des
pour
moyens...
Pour l'instant, ça reste dans l'ordre de l'incantatoire vis-à-vis des réquisitions.
Ça reste pas un incantatoire, ça reste... On a des listes de logements, on a des visites, donc il y a déjà eu des réquisitions. Il n'y a plus d'expulsion, il y a un moratoire sur les expulsions.
Mais ça, c'est la trêve d'hiver, oui.
Non, mais avant même la trêve d'hiver, il y aura une prolongation, certainement, il n'y aura plus, d'ailleurs, on ne parlera plus de trêve d'hiver. Il n'y aura plus d'expulsion. Donc ça, c'est quand même essentiel. Et par ailleurs, il y a des mesures de fond qui sont prises. Il y a la loi d'orientation qui va être à l'examen au Parlement, qui va bouleverser complètement la donne en matière de logements sociaux. Il y a eu la réforme de la loi SRU, qui conditionne encore plus, de manière plus fortement, et qui pénalise encore plus fortement les communes qui ne feraient pas assez de logements sociaux. Donc il y a des mesures qui sont très positives en matière de logement.
Sauf que l'ANRU, c'est pas Cécile Duflot qui s'en occupe.
L'agence, c'est Cécile Duflot. Après, c'est en lien avec la politique de la ville. Oui. Mais c'est très bien de connecter les deux. D'ailleurs, il faut que la politique de la ville soit le plus connectée à tout ce qui est social, culture.
Deux sujets cactus sur lesquels les écologistes sont plutôt discrets, voire timides, ce sont les Roms, les expulsions de Roms et le problème des sans-papiers. Là-dessus, l'expulsion des Roms, mise à l'intérieur, avec une cohabitation, avec des Verts à l'intérieur de ce gouvernement, et pourtant les expulsions sont continues. De la même manière, que ce soit les sans-papiers, que ce soit les Roms.
Alors, je sais pas comment ils se font entendre. Enfin, moi, je fais partie, par exemple, du réseau d'élus volontaires à Paris avec le préfet Régnier, donc le préfet qui est censé appliquer la circulaire de prix l'été dernier, donc au moment de la crise du séminaire interministériel là-dessus. Il y a une volonté, en tout cas, de la part... Le problème, c'est les disparités qu'il peut y avoir entre les préfectures en termes d'application de cette circulaire. Il y a des préfectures qui, effectivement, n'expulsent plus les campements roms. D'autres, comme les Bouches-du-Rhône, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, effectivement, on n'a pas l'impression que le gouvernement ait changé, que la couleur politique du gouvernement ait changé.
La situation s'est même aggravée.
D'expulsion, de chasse, de... Effectivement, ça s'est presque dégradé, en tout cas, en termes de précarisation.
On a vu une population, notamment l'exemple dans les quartiers nord, où la population elle-même...
Chassée, bien sûr. On en arrive à des phénomènes assez terribles. Mais je vous dis, je pense qu'il y a des mesures, il y a des communes, donc je pense à Montreuil par exemple, qui ont innové, qui ont créé donc des villages d'insertion. Je pense aussi au maire de Gardanne ici même qui fait l'effort, et je pense que il faut le saluer parce que c'est très compliqué en plus.
Mais la politique du chiffre qui continue avec un gouvernement de gauche, ça vous gouvernement socialiste.
Mais je crois que nous on
avec
bataille
à l'intérieur des ministres.
Nous ce que l'on souhaite, il faut que Manuel Valls le comprenne. On souhaite la levée de ces mesures transitoires. On souhaite c'est pas très compliqué en fait, il y a 15 000 Roms en France, donc mettre en place des campements, créer des filières d'autoconstruction pour réaliser ces campements, c'est dérisoire. Il faut juste libérer un peu de foncier, que les maires acceptent donc de libérer un petit peu de foncier, qu'il y ait une politique d'accompagnement ensuite en matière de scolarisation des enfants, d'accompagnement social des familles, mais c'est vraiment un problème très léger.
Cécile Duflot est au courant? Parce qu'elle semble pas le...
Mais elle intervient plein de fois. Enfin, moi, je l'ai interpellé plusieurs fois quand en début de mandat, quand on n'avait pas encore de parlementaire, pour empêcher des expulsions. Donc, effectivement, mais c'est compliqué. Mais simplement, ça se dit pas... on ne claironne pas sur tous les toits. C'est un travail plus... Mais c'est pareil sur les sans-papiers. Je pense qu'on n'est pas d'accord avec la politique, la circulaire extrêmement restrictive qui a été mise en place. Et on l'a dit, ça.
Il y a un problème de rythme avec François Hollande. Il avait promis le changement maintenant. Et dans beaucoup de dossiers, on voit beaucoup de tempérance, pour ne pas dire plus. Il y a eu, par exemple, le droit de vote aux étrangers, aux élections locales, qui a été repoussé à on ne sait quand.
Oui, la question du cumul des mandats, on va voir. Donc là, il y a une volonté quand même affichée de limiter le cumul des mandats, mais il faut que ça s'applique dès 2014. Il n'y a aucune raison de le faire, de faire appliquer la loi en 2017. Donc je crois effectivement qu'il faut que, y compris au niveau sociétal, les mesures soient prises. Que ça coûte pas cher. Je veux dire, il faut le faire parce que c'est symbolique. Et la gauche l'a toujours fait avec le PACS en 97, avec l'abolition de la peine de mort en 81. Je pense donc qu'il faut avancer sur ces mesures sociétales. Et le droit de vote des étrangers, ça paraît être un combat essentiel aussi.
Autre sujet sociétal, et on termine là-dessus, c'est celui du mariage pour tous. Mariage pour gays, pour les uns, mariage pour tous, pour d'autres. Vous y êtes favorable?
Ben évidemment, les écologistes, on a toujours été favorables à l'égalité des droits.
Vous pouvez entendre quand même les oppositions?
Alors moi, ce que je peux entendre, effectivement, c'est sur la procréation médicalement assistée.
La PMA, oui.
Alors la PMA, les questions éthiques que ça peut poser. Le problème, c'est après la confusion de... Et les amalgames qu'il peut y avoir et les dérives aussi homophobes que ça peut engendrer. Donc, mais effectivement, il y a une vraie question bioéthique. C'est est-ce qu'on passe d'un, d'un outil qui était à usage thérapeutique aujourd'hui à un droit. Donc c'est par rapport au droit de l'enfant, je peux le comprendre, qu'il y ait une réelle question éthique. Maintenant, je pense qu'il faut donner, c'est toujours pareil, l'égalité de droit doit permettre, y compris aux couples homosexuels, d'avoir des enfants.
D'accord. Là-dessus, un référendum, vous qui avez l'habitude justement du dialogue, de discuter en interne, le référendum, c'est quelque chose sur ce sujet-là, justement, ça vous paraît...
Non, parce que c'est un sujet qui va agiter les passions, et donc qui va...
Et pourquoi pas, la société est assez mûre pour juger de tel ou tel sujet, non? On l'a vu pour le projet de constitution européenne.
Il peut y avoir un vrai débat public voilà, nous ce qu'on réclame, c'est un réel débat public. Et de fait, c'est pas si mal d'avoir séparé justement la question du mariage de la question de la procréation, enfin de l'homoparentalité. Ça permet d'éviter la confusion et la fronde radicalisée des opposants.
Michel. Alors on se rapproche de la région. Ce gouvernement a pris en main, de façon très virile, on va dire, la question marseillaise.
Marseille, cause nationale.
Cause nationale. On a vu une série de ministres se déplacer. Et puis, certains parlent même d'une mise sous tutelle de la ville. Je ne sais pas si vous pensez que c'est vrai. Ça se traduit à travers le fameux dossier de la métropole. Alors, la métropole qui fait face à des oppositions diverses et variées, vous semblez, vous, très clairement favorable à une métropole. Alors, en posant certaines conditions, vous me dites, oui, c'est ce qu'il faut faire.
Et enfin, tout d'abord, donc, pour revenir sur l'intervention, parce que l'intervention du gouvernement a quand même commencé, l'annonce y compris de la construction métropolitaine a commencé avec le séminaire interministériel consacré à Marseille, qui a eu lieu en septembre dernier. Et les conclusions de ce séminaire étaient intéressantes, parce que c'était une période où il y avait effectivement tous les règlements de compte, etc. Donc on aurait pu penser qu'il y a uniquement une intervention et une riposte gouvernementale sur l'entrée sécuritaire, qui serait chiffrée avec effectivement l'arrivée de moyens de renfort en termes de police. On a vu qu'il y avait quand même une volonté d'aller sur un champ beaucoup plus large, y compris au niveau social, avec création d'une deuxième école de la deuxième chance. On va favoriser de manière expérimentale à Marseille l'intégration des 2 ans des enfants dans les quartiers, dans les zones défavorisées, les quartiers nord. Donc voilà, il y a des mesures quand même qui sont positives en matière de, ça se traduit d'ailleurs dans la loi d'orientation sur l'éducation. On voit que les Bouches-du-Rhône sont largement dotées en matière de renforcement des effectifs d'enseignants et de postes d'emploi d'avenir. Donc au niveau éducatif, la politique du gouvernement n'est pas si mal. Alors pour nous, ça ne va pas assez loin en matière de remise en cause de la politique Sarkozy, d'évaluation, d'approche quantitative et sélective des élèves. Mais en termes de renforcement des effectifs, ça va plutôt dans le bon sens. Donc sur Marseille, le séminaire interministériel a été positif. Et qu'on parle de tutelle, ça me paraît absolument aberrant, parce qu'il y a des moyens qui vont être mis. On sait très bien, pendant des années, Marseille s'est plaint de ne pas être assez doté de moyens dans le cadre du contrat État-Région, par exemple, sur les infrastructures. Alors beaucoup réclament la L2, nous on réclame plutôt du ferroviaire, des investissements en matière ferroviaire. Et en matière de transport, on va enfin certainement avoir des moyens pour développer une vraie ligne de transport collectif.
Quand Michel Guéraud parle de mise sous tutelle, ça veut dire que le gouvernement a clairement mis une deadline pour que tout le monde soit d'accord sur le métropole. Hein.
Oui, mais ça me paraît bien. Enfin, je pense qu'il faut bousculer. Sur ce dossier-là, il faut bousculer. Alors nous, on est pour une troisième voie dans la construction métropolitaine. On rejette la métropole côté libéral, on va dire... De mise en concurrence des territoires, de critères de Shanghai, qui est porté par le monde économique. Nous, c'est pas cette métropole-là que l'on souhaite. Mais en revanche, que le fait métropolitain existe, qu'il y ait aujourd'hui des Marseillais qui se déplacent, qui habitent dans les quartiers nord, qui vont bosser sur la zone de l'étang de Berre, zone où il n'y a pas du tout de transport collectif prévu. On est dans un système aujourd'hui où il y a un deal permanent entre les maires de chaque commune pour avoir qui sa piscine, qui sa médiathèque, donc il n'y a aucun intérêt général sur ce territoire. Il faut développer une vision d'intérêt général. Mais ça veut dire qu'on conditionne notre soutien à la métropolisation à différentes choses. Le fait qu'il y ait un périmètre unique, c'est-à-dire qu'on ait réellement création d'un espace public, démocratique, métropolitain, d'accord, avec périmètre unique et élection au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'au moment où on va voter en 2014, il y aurait deux projets, un projet municipal et un projet métropolitain, et que ces visions métropolitaines s'opposent. Qu'il puisse y avoir voilà, des personnes qui disent on va faire la métropole, c'est ça qu'on va développer en matière de transport, on va mutualiser l'aide au logement, on va mutualiser la question du foncier, on va...
La grande tchatche, leur avis,
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Sébastien Parle. On parle de métropole. La métropole, c'est finalement la panacée pour l'image de Marseille. On parlait tout à l'heure de la délinquance. Marseille, cause nationale pour différents sujets, y compris celui-là. La métropole, ça va aider?
Mais je pense que ce n'est pas la panacée. En revanche, c'est un outil dont on ne peut pas se priver. C'est-à-dire, c'est essentiel de créer un dialogue entre Aix, Marseille. On voit bien qu'on est sur un territoire qui est atomisé. Les richesses économiques sont à l'extérieur de Marseille. Et les charges de centralité sont à Marseille, parce que ça, c'est indéniable.
Est-ce que ça passe par la suppression des intercommunalités?
Mais c'est évident.
Oui, d'accord.
Pour moi, ça passe par la suppression des intercommunalités, parce que c'est une forme de dérive clientélaire qui s'est installée. On le voit avec la gestion de la communauté urbaine, où c'est du deal perpétuel. On l'a vu avec les contrats de mandature, où chaque VP avait sa petite carotte.
Finalement, la RGPP de Nicolas Sarkozy, avec la suppression annoncée du Conseil général, la restructuration du Conseil régional, c'était pas une si mauvaise chose, non?
Enfin, c'est pas ça la RGPP, mais c'était la réforme des territoires. Mais nous, on est favorable, on a toujours été favorable à la suppression du département. Et on pense effectivement qu'une métropole, puisque le périmètre de la métropole va épouser à peu près le périmètre départemental, il faudrait que les compétences départementales soient ensuite ventilées entre, elles sont essentiellement sociales, entre les communes et la métropole.
Alors qu'ils soient de droite ou de gauche, communistes, UMP, etc., toutes les agglos qui entourent Marseille disent non, on va créer une espèce d'énorme machin technocratique, ça va éloigner de la population le centre de décision. Vous répondez quoi?
C'est sûr que les EPCI, c'était le comble de la démocratie. Les mecs étaient élus en démocratie indirecte. Ils ont consulté leur population avant de se prononcer sur pourquoi ils sont contre. Donc c'est de la défense d'intérêts, c'est une défense corporatiste. C'est de la défense d'intérêts particuliers, de petits intérêts locaux. C'est une vision extrêmement étriquée, je trouve, pour le territoire. Et donc voilà, enfin moi je partage pas du tout ce que portent les élus. Et je partage pas du tout non plus le compromis qui pourrait se dessiner, où le gouvernement dirait bon ok, on coupe la poire en deux, on fait les conseillers métropolitains d'un côté, et puis il y aura une seconde chambre avec le collège des maires. Et en fait, c'est cette chambre-là qui va décider de comment on répartit le gâteau. Et donc, pour nous, il faut rejeter ça. Moi, ce que je défends, c'est une deuxième chambre, effectivement, mais une chambre de l'avenir. Une chambre qui a travaillé sur les grands projets de transition, où on intégrerait des citoyens tirés au sort, on y intégrerait des experts, on y intégrerait donc des scientifiques. Ce que défendent, en tout cas, les théoriciens aujourd'hui de l'écologie, que sont, par exemple, Latour.
Michel ?
Le fait que le maire de Marseille, qui devrait être le premier défenseur d'un système qui amènerait de l'argent et pour sa ville, soit finalement si peu enthousiaste par rapport à ce projet d'intégration de métropole, ça s'explique comment? Il craint de se fâcher avec les maires des communes environnantes
Mais il me semble qu'il y a des élections sénatoriales dans quelques mois, et donc de même que son choix pour le parc national des Calanques, je pense qu'il est un peu conditionné à ça. Et c'est quand même terrible, voilà, mais bon, c'est Marseille.
Justement, le parc national des Canons, qui on évacue la question, la nomination du maire de Cassis, qui est critiquée par les uns, elle arrive à limite d'âge selon le gouvernement, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je crois, après, elle a été élue démocratiquement. Alors, ce que je reproche, c'est que l'État, qui est quand même membre du CA, il y a plusieurs... Ils ont choisi de ne pas voter. Voilà, ça me paraît étonnant qu'il n'y ait pas de vote, que ce soit uniquement les locaux qui décident de la présidence. Il y avait d'autres candidats qui étaient peut-être plus compétents, en tout cas, et moins... Il y a un plus de conflit d'intérêts, c'est-à-dire elle est maire d'une commune qui est un bout du territoire ou qui est en périphérie du territoire du parc national. J'aurais préféré qu'il y ait une personne qui ait une vision plus panoramique et qui ait moins d'intérêt particulier.
Pas de poste politique, pas de rôle politique.
Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de représentant politique élu président du parc national, mais la possibilité n'était pas offerte. Donc.
Michel Guéraud.
Alors vous participez à la création d'un collectif qui s'appelle le collectif des Gabians, donc qui réunit des associatifs, des élus, d'Europe Écologie, Les Verts pour l'essentiel, et du Front de Gauche aussi. L'objet est très 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 ambitieux parce que, et assez polémique, vous dites qu'il s'agit de se batailler contre l'état de délitement de la gouvernance locale. On en est là ?
Oui, enfin, juste pour préciser quand même, ce collectif, il réunit ses parties de quelques personnes, beaucoup de la société civile, comme on l'appelle. Il y avait notamment Baptiste Lanaspez qui a dirigé à un moment cette radio, qui est également l'initiateur du projet du sentier de grande randonnée, le GR 2013, qui va embrasser tout le territoire de justement métropolitain. Il y avait d'autres personnes, je pense à Alain Fourest, justement, de Rencontre Tziguen, qui bataille au quotidien pour les Roms. Il y a pas mal de personnes qui viennent, deux tiers des signataires de ce manifeste viennent de la société civile. Donc après, effectivement, il y a des politiques, il y a des élus du Front de Gauche, je pense à Jean-Marc Coppola, à Frédéric Dutoit, à Christian Pellicani. Il y a des élus ELV, il y a des militants du NPA, des militants du MoDem, des militants du MRC également. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sociétés civiles. On a des syndicalistes, on a des universitaires, des représentants culturels. Je pense à Pierre Sauvageau, à Hubert Collat également, le grand metteur en scène. Il y a également des urbanistes, des architectes, plein d'associations également qui sont présentes dans ce collectif. Donc c'est beaucoup plus vaste que quelques représentants politiques qui se mettent d'accord sur un texte. Mmh. Et donc on est parti, on a fait plusieurs réunions. Donc c'est un manifeste qui a été rédigé à plusieurs mains, on va dire une centaine de mains. Et on est parti. En fait, ce qu'on souhaitait poser, c'est un véritable acte politique citoyen qui serait à la fois un cri d'alerte donc, sur l'état de la ville et puis l'élaboration d'un front du refus. Donc l'idée, c'est alors, vraiment...
Un mot quand même sur l'état de la ville. Vous parlez d'élitement de la gouvernance locale, vous parlez d'asphyxie démocratique, tout ça c'est très fort.
Mais je crois que le diagnostic, il est effectivement très dur, parce que je crois que l'état de la ville... Alors on a voulu équilibrer, en tout cas, il y a à la fois, je trouve, à Marseille, quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire il y a un énorme amour, une espèce d'attirance terrible pour cette ville qu'on ne peut pas quitter, et en même temps une espèce de désespérance, une espèce de complaisance même dans le fatalisme ambiant. Donc je crois que l'idée, c'était de dire, mais non, il y a des atouts considérables, cette ville a des atouts considérables, mais c'est la gouvernance qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on parle d'asphyxie démocratique. Je crois que la question de... on est sur une ville qui est fracturée, il y a des secteurs qui sont absolument délaissés, il y a une espèce de co-gouvernance qui fait que... en fait, la ville est gouvernée par une toute petite minorité. Et ça depuis 50 ans.
Enfin, la co-gouvernance, vous y participez également, à MPM notamment, les élus verts ne sont ni systématiquement en opposition.
Ben, on est quand même très souvent... Enfin, les seuls qui sont un petit peu en opposition, c'est nous. On a voté contre à plusieurs reprises... contre, y compris donc le programme qui a été élaboré par les deux partis majoritaires. Mais donc c'est cette gouvernance, je pense, qui est absolument déplorable. Et on voit qu'il n'y a aucun espace également dans la ville de démocratie, aucun espace de respiration démocratique. Mais en même temps, à côté de ça, et puis du fait peut-être de l'agonie justement du système clientélaire, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'arrosage ne peut plus durer. Il n'y a plus les moyens d'acheter la paix sociale. Et donc ça, c'est la menace qui remplace souvent la gratification par un emploi, par un logement qui était le cas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est des menaces. Moi, je l'ai vécu dans ma campagne législative, dans le 3e arrondissement notamment, à Saint-Mauron, à la cité Félix-Pia, les gens étaient menacés. Ils étaient menacés, s'ils votaient pas bien, ils étaient menacés, on pouvait leur brûler leur maison. Enfin, en tout cas, c'était ça, les menaces étaient exprimées comme telles. Donc... on voit bien qu'on est à la fin de...
Certains élus avaient même évoqué l'idée d'un système mafieux. Vous partagez cette vision-là?
Ben, c'est une forme de système mafieux, oui, effectivement. Quand les gamins d'une cité sont payés pour faire voter les gens, on donne une enveloppe aux personnes, on va contrôler, y compris à l'intérieur des bureaux de vote, c'est-à-dire la personne ne peut pas fermer l'isoloir parce qu'il y a complaisance de la part des présidents de bureaux de vote, effectivement, on est sur un système quand même assez terrible, assez perverti.
Alors, en juin, vous déclariez à nos confrères de la Provence, on souhaite que le PS mette bas à le système hérité du deuxférisme et qu'il œuvre réellement à la démission de Jean-Noël Guérini au Conseil Général. Sinon, les échéances à venir seront polluées.
Tout le monde a compris, sans transition, qu'on était passé du système mafieux à Jean-Noël Guérini.
Vous êtes toujours sur cette position aujourd'hui, Jean-Noël Guérini, dont l'unité parlementaire vient d'être levée deux fois.
On demande depuis les élections cantonales, et on a été la seule formation politique à refuser d'apposer notre logo à côté de celui du PS parce que les candidats étaient pour le renouvellement de Jean-Noël Guérini. Donc là-dessus, on a été très clair. On a même envoyé des huissiers au parc Chanot pour empêcher le PS de mettre son logo notre logo à côté du leur dans le cadre de ces élections-là. Donc là-dessus, on a toujours été très clair. Le conflit d'intérêts, ça paraît aberrant que Jean-Noël Guérini soit encore à la tête du Conseil Général. Et je pense qu'il est essentiel de... Mais c'est pas la seule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas Jean-Noël Guérini n'étant plus dans le champ politique, on va dire. Ben, le système n'est pas pour autant mort.
Il est toujours président du Conseil général.
S'il n'était plus là, ce que je veux bien dire, c'est que c'est pas notre seul combat.
Et il faut parler du deferisme. Tout le monde se réclame.
Il faut faire attention. Les héritiers ont des pratiques également qui ont été. Ils ont été formés à cette école, de Gaston Defer, que d'aucuns admirent.
Eugène Casilli, Patrick Minucci se réfèrent à Gaston Defer en permanence.
Mais bien sûr, Maria Carlotti aussi est une héritière qui vient de cette filiation-là. Donc, mais je crois qu'il y a des volontés. Enfin, certains considèrent qu'effectivement, il faut changer les pratiques radicalement, les pratiques politiques radicalement. Et puis d'autres ont à peu près les mêmes pratiques. Et c'est de la posture, la posture anticlientélaire, alors qu'on a les mêmes pratiques. Il faut faire très attention. Nous, on sera vigilants là-dessus.
Donc, ce sont encore des interlocuteurs pour vous, les socialistes
localement?
Oui.
Mais je pense qu'il y a certains socialistes, effectivement, qui restent des interlocuteurs. Ouais.
Comment vous allez faire, par exemple, aux prochaines élections? Parce que, bon, on sait qu'il y a un premier tour, mais il y a toujours un second tour. L'interlocuteur, ce sera toujours la Fédération Socialiste. Jean-David Ciot, qui vient d'être réélu, qui, lui, est un guériniste pur et dur et qui le revendique. Ce sera un interlocuteur pour vous?
Mais dans le cadre des élections, enfin, c'est pas avec la fédération, c'est pas de parti à parti que ça se négocie. Ce sera avec. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté.
Ça se fera au niveau national et ça sera décliné au niveau local. Et le parti, la Fédé, discutera à un moment ou à un autre avec vous. Ça s'est toujours passé comme ça.
Nous, enfin, en 2010, on a discuté. Enfin, moi, j'étais directeur de campagne en 2010 au régional. On a discuté avec Michel Vauzel et l'équipe de Michel Vauzel pour la fusion des listes. Donc ça se passe comme ça, généralement. C'est de liste
pour
à liste.
Pour les municipales, 2014.
Et pour les municipales, ce sera la même chose. Ce sera de liste à liste. Donc c'est en fonction de ce que proposera la liste du Parti Socialiste ou soutenue par le Parti Socialiste et la nôtre que l'on envisagera une fusion éventuelle.
Et là-dedans, s'il y a des guérinistes...
Enfin, que la gauche remporte cette ville.
Et là-dedans, s'il y a des guérinistes, ça sera une niette.
Ben, effectivement, je pense que ce sera conditionné. C'est une des conditions. Mais c'est pas la chasse à l'homme. Je crois que c'est vraiment sur les pratiques... C'est sur les pratiques et l'affichage de la réelle volonté de changer les pratiques politiques locales et puis porter un projet de transformation, c'est-à-dire sortir de ce système qui se pratique à la communauté urbaine, sortir de la gestion qui se fait dans les mairies de secteur.
Vous comprenez, vous, que le président de la communauté urbaine, Eugène Casilli, qui a été lui aussi reçu par un juge, qui a été un collaborateur de longue date de Jean-Noël Guérini, veuille se présenter dans cette ville de Marseille et gère et soit peut-être futur patron de la métropole s'il est élu?
Mais il peut prétendre, effectivement, il a l'étoffe pour prétendre diriger éventuellement la liste. Il a montré qu'il tient la barre. Après, nous, ce qu'on peut lui reprocher, c'est effectivement, c'est une culture peut-être un peu trop gestionnaire.
Mais au niveau éthique?
Et après, bon, on peut saluer, par exemple, la question du port, la question du... Mais je pense qu'au niveau éthique, il s'est démarqué assez clairement et assez vite de mauvaises pratiques. Il reste cette connivence qu'il y a gauche-droite, ce rapport qui est pas bon, en fait. Il faut qu'il y ait deux projets qui s'opposent et on peut faire du compromis perpétuel. Ça ne peut pas marcher, ça, ce type de...
2014, c'est ça. Ça arrive très, très vite. Je vous ai cité tout à l'heure et vos inquiétudes par rapport au côté bloqué de la situation à gauche à Marseille, compte tenu des affaires judiciaires.
Bloqué, mais donc bloqué en termes de gouvernance. Mais je vous dis, je trouve qu'il y a une vitalité dans cette ville qui est phénoménale et qui est en train de. Il y a la soupape qui est en train de sauter. Enfin, attention qu'elle saute pas. Mais on voit qu'il y a une vraie vitalité démocratique dans cette ville.
Quelle traduction politique? Comment sortir?
Ça, j'en sais rien, mais souvent, les gabions, ça peut être un espace politique, parce que je crois qu'il y a cette volonté de... Il n'y a plus de confiance, il y a une défiance terrible envers les politiques, liée aux affaires, liée à tout ce qu'on a entendu, et à raison, d'ailleurs. Et puis, il y a une volonté, en même temps, de transformer la ville. Et donc, c'est très important que les citoyens puissent s'emparer de la chose publique, puissent s'emparer... Et les municipales, c'est le moment phare quoi, pour le faire.
Alors au Parti Socialiste, il y a un espace démocratique qui est apparu, qui est nouveau en France et qui pourrait se reproduire à l'échelle municipale, c'est les fameuses primaires, pour choisir un candidat et de façon peut-être un peu plus transparente qu'autrefois. Vous regardez ça comment de l'extérieur, chez vous, Karim Zeribi par exemple, à un moment dit qu'il était intéressé à participer à ces primaires-là. Est-ce qu'il faut se saisir de ce genre d'outils? Est-ce qu'il faut participer à ces primaires?
Mais je crois que c'est bien trop tôt pour on ne sait pas. Enfin, c'est le Parti Socialiste qui souhaite choisir son candidat. Moi, ce que je regrette,
pour l'instant, ils sont nombreux au sein du PS.
Hein. Voilà, j'ai pu comprendre qu'au moment des présidentielles, même si on rejette, nous, la dérive présidentialiste de la 5e, mais on continue à le faire. Mais c'était peut-être une nécessité de le faire, de faire des primaires pour effectivement dégager un candidat. Mais transposer le présidentialisme à l'échelle municipale, alors que c'est une équipe, c'est un projet municipal qui doit primer sur tout le reste, ça me paraît être la priorité des priorités. Donc nous, on n'est pas, enfin pour nous c'est voilà, c'est qu'il fasse, qu'il le fasse s'il souhaite.
Vous, porte-parole de
on sera vigilant au projet qui sera porté par les candidats les uns les autres d'ailleurs, parce que ce sera, c'est censé être notre partenaire de second tour. Mais nous, on souhaite créer une dynamique, en tant qu'écologiste, une dynamique écolo-citoyenne sur la ville. Donc, une dynamique pluraliste où on met en valeur la biodiversité de cette ville, et pas uniquement un homme et un projet.
Donc vous, vous affirmez aujourd'hui, de manière officielle, que vous ne participerez pas aux primaires des socialistes pour 2014.
Ah ben aux primaires des socialistes, c'est évident, ouais.
Et si un des membres d'Europe Ecologie, en l'occurrence Karim Zeribi, maintient sa candidature ?
Je ne suis pas sûr que Karim Zeribi ait dit cela, donc je pense qu'il participera non plus aux primaires du PS, mais j'en sais rien.
Et s'il participe ?
Vous poserez la question. Vous lui poserez la question.
Non, mais vous, qu'est-ce que vous ferez s'il participe ?
Mais nous, on décidera collectivement au moment où les primaires du Parti Socialiste seront organisées, on n'en connaît même pas les modalités, si on choisit quelqu'un, comment on s'y implique ou comment est-ce qu'on reste à côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de créer un espace, une troisième fois à Marseille, à côté de l'héritage de Gaudin, à côté quand même des autres héritiers que sont le Parti Socialiste, héritier de Defferre et héritier de quand même une certaine co-gouvernance. Nous, on souhaite créer une troisième voie qui est une voie de transformation écologique démocratique à Marseille, aux côtés des citoyens.
Vous pensez que les Gabians, l'aventure des Gabians, l'indignation des Gabians va tenir jusqu'en 2014 ?
Ben, ça peut être un espace, effectivement, de convergence et de transformation de la ville.
On va se poser la question du leadership, comment vous allez faire ?
Ah, on parle des primaires ? Non.
Le Front de Gauche va jouer le jeu là-dedans, parce que c'est pas trop leur culture, ce genre de collectif. Ils ont des ambitions pour les municipales aussi, qui arrivent très très vite.
Mais pour l'instant, on voit qu'en tout cas, il y a beaucoup de signataires du Front de Gauche qui participent à cette dynamique. Il y a d'autres espaces qui sont créés au niveau du Front de Gauche, je pense aux assises citoyennes et les assemblées citoyennes dans chaque quartier. Voilà, tout ça est convergent, je trouve. Ça participe à un réveil citoyen et puis à agiter le petit marigot local. Donc, je crois malgré tout que même si, effectivement, pour certains, la démarche partidaire est plus facile et plus sécurisante, mais c'est pareil chez nous d'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même cette volonté qui peut l'emporter, parce qu'on est dans un contexte particulier de fin d'un cycle à Marseille, et puis de possibilité de renverser quand même la table.
Alors le marigot, selon votre expression, le marigot local s'est enrichi d'un nouveau crocodile, Bernard Tapie pour ne pas le nommer. Bernard Tapie, patron de presse, La Provence, Nice Matin, quotidien en Corse également. Ce retour à Marseille, vous le voyez comment d'un bon oeil? Vous dites comme Karim Zeribi, un autre membre éminent d'Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas, ça peut apporter des bonnes choses?
Non, je crois que c'était une mauvaise nouvelle de plus, je pense, dans le contexte local. Je pense qu'il n'est jamais bon de mélanger, enfin, de voir une personne qui a été quand même condamnée à plusieurs reprises par la justice, qui prenne l'organe de presse numéro un de la région, et d'autres organes d'ailleurs du Sud-Est.
En même temps, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Une fois qu'on a été condamné, on a pu
faire sa peine, c'est terminé. On efface tout, je suis quand même d'accord. Mais l'image qu'il véhicule, et puis ensuite... la confusion qu'il peut y avoir aussi entre son éventuel retour en politique et le fait qu'il soit retour. Enfin, il y a un parfum de berlusconisme, je trouve, dans tout ça qui n'est pas sain. C'est le mélange de l'argent roi, et puis avec quel argent? En plus, il a racheté ses quotidiens, donc c'est l'argent du contribuable, hein, directement, lié au Lyonnais. Donc voilà, ça me paraît pas sain du tout. Après, j'ose espérer que ce soit une espèce de provocation, une espèce de. Que ce soit notre Depardieu local.
Non, en même temps,
mettre son bateau, son nouveau yacht aux portes de l'hôtel de ville, peut-être qu'il n'a aucune velléité, mais qu'il veut. C'est sa dernière provocation. Quoi.
Sinon, le fait qu'il reprenne la Provence, la PQR qui est en crise, comme on le sait, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Il ne va pas influencer. Apparemment, il a des idées qui sont assez claires, plus de communication, moins de journalisme.
Je pense que c'est. Voilà, on sera vigilants également, on soutiendra. En tout cas, les journalistes, il y a au sein de la Provence encore les journalistes d'investigation qui font un vrai travail d'investigation. Je pense aux chroniqueurs judiciaires notamment, qui ont fait un très bon travail sur les affaires, justement, le local, et c'était compliqué. Je pense que voilà, c'est nécessaire de maintenir un journal d'information et de ne pas transformer le journal en tabloïd, comme le groupe Persan a pu le faire sur plusieurs quotidiens.
Donc, si Bernard Tapie se présente à la mairie de Marseille, ou en tout cas soutient ouvertement un candidat, ça sera forcément contre vous. Ou en tout cas, vous serez contre lui.
Je pense que les Gabians sauront lui tourner autour. Parce que je crois que le Gabian, c'est aussi une vigie. Enfin, je pense que c'était important... Il y a à la fois le côté... ça a été compliqué de trouver un nom pour ce collectif, mais l'aspect vigie paraît très important, quoi.
Enfin, vous savez que Bernard Tapie a été, avant votre arrivée en 2008 à Marseille, a été très soutenu ici par les socialistes locaux, hein, Michel Bozet.
Ah, mais c'est bien, bien sûr. Ouais.
Ouais. Et d'autres.
Hein, non, c'est bien. Hein. Et puis j'ai entendu le mutisme suite à la reprise par, de la Provence, j'ai entendu le mutisme à gauche, sauf Patrick Mennucci qui a été courageux.
Et c'est quoi là qui nous amène Bernard Tapie dans cette ville? Il y a une fatalité, il y a une... On a l'impression, on a entendu dire que le gouvernement avait essayé de mettre des bâtons dans les roues dans la démarche de rachat. Il n'a pas réussi.
Après c'est compliqué, enfin, c'est une forme d'ingérence, donc c'est très compliqué au gouvernement d'intervenir. Donc oui, c'est une espèce de fatalité, quoi, de fardeau à payer, de...
Mais en même temps, Jean-Claude Gaudin, au vœu de la presse à Marseille, redit en tout cas clairement oui, je préfère voir un Français, en l'occurrence Bernard Tapie, plutôt qu'un Qatari ou un Belge, reprendre la Provence.
Ouais.
Non, c'est régional socialisme. Michel ?
Autre événement cette année 2013, bah c'est la fameuse capitale européenne de la culture. Voilà, donc il y a eu un feu d'artifice, il y a eu une grande clameur. Certains ont trouvé qu'elle était un petit peu timide, cette clameur. Vous en pensez quoi, là, de cette grande...
Je pense que ce qui est très bien, c'est l'élan populaire que ça a généré. On a vu quand même le 12 janvier, des centaines de milliers de Marseillais descendre dans la rue et s'approprier l'événement, et s'approprier leur littoral, se réapproprier leur littoral. Donc le port, ils sont extasiés sur le port, sur les nouveaux édifices culturels du J4. Donc je crois qu'il y a une fierté quand même de la part des Marseillais de voir qu'on a enfin des fleurons culturels dans cette ville. Après, effectivement, la fête n'a pas été, je trouve, à la hauteur. Il n'y a pas eu de grandes fêtes populaires, justement. Il n'y a pas eu de bal, il n'y a pas eu de grands concerts, il n'y a pas eu même de spectacles de rue.
Comment vous expliquez, alors que c'est la capitale justement du spectacle de rue, Marseille, avec des subventions très importantes pour la Cité des Arts de la Rue, comment vous expliquez que finalement les politiques n'aient pas été à la hauteur des demandes des Marseillais?
Mais je pense que ça va venir. Je crois qu'il y a les événements Arts de la Rue sont plutôt liés au printemps, auront plutôt lieu au printemps. Donc c'est phasé sur toute l'année. Enfin, moi réellement, je pense que la programmation, elle est à la hauteur. Alors on peut regretter le fait qu'effectivement, on n'est pas assez valorisé. Enfin, déjà, je pense qu'il y a eu une erreur dans la méthode, c'est-à-dire l'appel à projet, et ça a été une erreur funeste. Ça a généré de la frustration de la part des acteurs locaux, et c'est jamais bon. C'est une logique libérale qui n'est jamais bonne de procéder par appel à projet. Il faut choisir, il faut construire, enfin, co-élaborer et choisir ensuite une programmation culturelle. Et, mais je crois que voilà, on a. Alors, il y a à la fois. Moi, je suis partagé entre la satisfaction de voir effectivement des grands équipements culturels fleurir à Marseille, le premier musée national extérieur à Paris qui va être à Marseille. Le problème, c'est effectivement la question de l'irrigation culturelle, du fait qu'il n'y ait pas d'équipement qui ait pu fleurir sur d'autres quartiers, alors qu'il y a une demande de la part des citoyens et des habitants. Il y a une nécessité même. Je pense au quartier nord, au quartier est de la ville, où il y a des projets de médiathèque, mais jamais aucun équipement ne voit le jour. Donc voilà, il y a malgré tout une vigilance, mais ça participe. Enfin, on voit quand même qu'il y a une ébullition et il y a un bouillonnement. Alors, ce sera à la fois la candidature officielle, enfin le in, on va dire, de 2013, mais il y a les projets du off, il y a le projet de camping, il y a le projet des feuillants qui germent aujourd'hui. Et puis, on voit qu'il y a un bouillonnement parce qu'il y a des nouveaux lieux qui ouvrent également dans la ville. Alors, par contre, on sera très vigilant sur les lieux qui ferment et on sera très vigilant à l'avenir. Enfin, nous, notre priorité, c'est 2014. C'est comment on va pérenniser ces équipements, on va sans assécher justement les petits acteurs et les moyens acteurs culturels, et les petits et moyens équipements culturels, parce qu'il va falloir, effectivement financer le CRM, enfin la Villa Méditerranée, il va falloir financer, alors le Mucem non, c'est national, mais le FRAC par exemple, et d'autres équipements. Il ne faut pas que ce soit au détriment des
petits
lieux intermédiaires.
Vous critiquez pas la Villa Méditerranée, finalement, c'est le projet d'un seul homme, Michel Vozel, qui a coûté quand même 50 millions d'euros aux contribuables. C'est énorme pour une utilité qui est encore à démontrer, quoi.
Alors, nous, on était assez critiques, effectivement, au départ, sur la méthode. C'est-à-dire, il y avait une logique mitterrandienne. C'était un moyen pour Michel Vozel de laisser sa trace. Après, je trouve que c'est quand même une belle réussite architecturale. Et je crois que le projet est intéressant. Et je pense qu'au fil de l'eau, il a trouvé sa complémentarité avec le Mucem. Ils sont en train de cheminer vers une programmation complémentaire. Donc je pense que c'est pas, en tout cas, on ne le présentera pas comme un éléphant blanc, comme, comme d'autres projets laissés par d'autres pharaons de locaux.
Vous avez parlé de 2014. Si Marseille, capitale européenne de la culture, est une réussite, ce qu'on lui souhaite, ça bénéficiera à qui en 2014 ? Jean-Claude Gaudin, maire ? Identifiable facilement. Et, enfin, moi, ce que j'aimerais,
C'est que ce soit au bénéfice des usagers de la culture et donc des habitants. Et donc, c'est pour ça que 2014, il faut que ça profite à l'ensemble des. Que les projets, y compris qui ont vu le jour dans les quartiers nord, je pense au GR, je pense à Hôtel du Nord, soient pérennisés. Et donc, trouvent des moyens d'être soutenus.
Michel ?
Moi, 2014, alors Sébastien Barle, candidat à quelque chose ou pas ? Est-ce que justement, il ne faut pas passer le cap et incarner. Incarner quelque chose de différent par rapport à ce que vous décrivez. Vous voulez créer une alternative politique, rompre avec les pratiques clientélistes, etc. Donc est-ce qu'il ne faut pas incarner ça ?
On revient à la question du leadership.
Mais incarner, je pense que c'est l'incarnation, elle se fait dans un rassemblement. Donc,
là, vous vous cachez derrière le collectif. Là.
Ah, mais c'est le collectif qui doit primer sur tout le reste. Et l'élargissement de ce collectif, je pense que c'est ce qui a marché aux européennes pour nous en 2009. C'est justement l'été... C'est ce rassemblement et toute cette richesse qu'il y avait dans la complémentarité entre un José Bové, une Eva Joly.
Oui, il y avait un sacré casting. Il y avait un collectif, il y avait un casting.
Oui, il y avait un collectif et un casting, mais ce sera peut-être le cas avec les Gabions.
Quels sont les visages justement du renouveau
à Marseille? Oui. Et je pense que justement 2013 peut amener de nouveaux visages. Il y a des nouvelles personnes qui montent des projets, qui... on voit des urbanistes, également des jeunes urbanistes qui sont en train de travailler sur des projets un peu alternatifs, farfelus, enfin qui apparaissent farfelus. Mais voilà, toutes ces personnes, je pense que sont. Mais après, c'est pas forcément. L'incarnation, elle se fait dans une dynamique citoyenne aussi. Elle se fait.
Vous avez l'ambition d'incarner cette dynamique ?
Moi, je veux participer en tout cas à une dynamique qui cherche à faire turbuler le système à Marseille. Ça, c'est une évidence.
Seriez candidat éventuellement ?
Mais je suis candidat, je serai candidat sur certainement un secteur de la ville, ouais.
Candidat à la candidature. Mais pour la mairie de Marseille, non ?
Pour la mairie, non, je ne suis pas candidat.
Europe Écologie va présenter un candidat, quand même.
Mais je ne sais pas ce que fera Europe Écologie Les Verts. J'espère qu'on ne sera pas uniquement dans des démarches partidaires, chacun présentant son candidat. Voilà, moi, c'est ce que je refuse. Enfin, je me refuse à voir ça. Donc j'espère qu'il y aura une dynamique plus large à côté de voilà, une vraie troisième voie qui serait un rassemblement plus large que les écolos d'un côté, le Front de Gauche de l'autre, les socialistes... d'un troisième côté.
Sébastien Barle, on vous remercie. Allez,
merci à vous.
On se retrouve le mois prochain avec un tout autre candidat et peut-être même une nouvelle formule de l'émission. La Grande Tchatch, le Ravi. N'oubliez pas, le Ravi, c'est dans tous les kiosques, mais c'est également en abonnement et c'est moins cher quand on s'abonne. Plein de bonnes choses. Bye.
La Grande Tchatch.